RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, Laurent Vartan, Martinet, Charles Consigny et Joël Dagosséry. Voilà nos trois GG. Vous intervenez au 32-16, vous prenez la parole. C'est vous qui débattez avec nous. On va maintenant revenir sur cette décision de justice concernant un meurtrier interné en psychiatrie. Vous vous souvenez de cette histoire, on en avait parlé, ce terrible drame. On est en mai 2022, c'est un homme qui va chercher ses enfants à l'école et il tombe sur un type complètement exalté qui lui assène 40 coups de couteau. C'est un médecin militaire.
Devant sa fille de 20 mois qui était installée dans la voiture. Siège auto à l'arrière.
Voilà. L'homme succombe à ses blessures, c'est un médecin militaire, donc âgé de 40 ans, Alban Gervaise. Son meurtrier est interpellé tout de suite, placé en hôpital psychiatrique. 4 ans après, eh bien il sort.
Oui, la chambre à l'époque, c'était en juin 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, donc c'était l'appel, avait déclaré pénalement irresponsable cet homme, Mohamed L. Alors on n'a pas son nom, je ne sais pas pourquoi. Son hospitalisation complète sous contrainte va prendre fin dans les prochains jours, à la suite d'une décision qui a été prise par des psychiatres, validée par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc concrètement, son suivi va prendre la forme de l'hôpital seulement la journée, du lundi au vendredi, avec un retour au domicile de ses parents le soir et le week-end à Marignane. Il devra bien sûr obligatoirement suivre le traitement médical qui lui a été prescrit. S'il ne le fait pas, il retournera à l'hôpital. Alors, c'est bien sûr l'épouse de ce militaire, Christelle, est effarée. Elle dénonce un sentiment d'injustice et une décision qu'elle juge incompréhensible au regard du calendrier. Parce que finalement, ça n'aura duré que 4 ans, cette hospitalisation forcée du meurtrier de son mari. Et puis aussi cette question, comment peut-on s'assurer qu'il ne va pas récidiver ?
Charles ?
J'ai pas le détail absolu du dossier. Moi, de façon générale, je suis un peu suspicieux quand on psychiatrise le crime. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même bien commode de dire qu'on a tout à coup entendu des voix au moment de passer à l'acte, parce que ça vous flèche dans le circuit vers des traitements médicaux plutôt que vers une sanction pénale. Donc ça, c'est sûr que c'est la planche de salut d'être tout à coup schizophrène. Donc premièrement, ça me pose question. Et ensuite, effectivement, j'espère que les juges savent très précisément ce qu'ils font, parce que si cet homme recommence, s'il est de nouveau pris d'une folie qui le conduit à agresser ou à tuer son prochain, ils auront pris une responsabilité lourde. Mais du coup, ce que je pense, comme le courage n'est pas toujours ce qui étouffe cette institution, je pense qu'ils savent ce qu'ils font et que s'ils ont pris cette décision, on verra, mais moi je me dis qu'ils ne prendraient pas un risque inconsidéré s'ils estimaient cette personne dangereuse.
L'assassin du père Amel était sous bracelet électronique.
Voilà. Non, mais par exemple, tout à fait.
Enfin, malheureusement, les cas de personnes qui ont été relâchées, qui étaient sous contrôle judiciaire, ou surveillés, ou sommés de revenir à la prison, et qui sont repassés à l'acte.
Il y a qui veulent rentrer dans la prison, ils n'y arrivent pas non plus. Non
oui, c'est vrai, il y avait cette histoire aussi qui était incroyable. Joël Dagosséry.
Je ne peux pas dire que je me sente rassurée par cette décision. Je comprends bien que c'est un malade et qu'on ne juge pas, entre guillemets, les fous, comme on dit, de manière normale, parce qu'effectivement, on estime qu'ils ont pas. Enfin, il y a une abolition du discernement qui est là, donc ça, je l'entends bien. Maintenant, n'empêche que cette personne a commis un meurtre atroce.
Atroce,
oui, parce que c'est plus qu'atroce, enfin, c'est atroce.
C'était particulièrement violent.
Oui, particulièrement violent. Et voilà, il sort le week-end. Est-ce qu'on est sûr que la famille, puisqu'il rentre dans sa famille le week-end.
Il rentre chez ses parents, oui.
Voilà, il rentre chez ses parents. Est-ce qu'on est sûr que ses parents peuvent le contrôler, le surveiller, parce que ce que je n'ai pas comme information, c'est quel était le parcours de cette personne avant le meurtre. C'est-à-dire, est-ce que c'était quelqu'un qui était suivi très sérieusement? Est-ce que sa famille avait pris au sérieux C'est, voilà, tu vois, donc c'est ça le problème. Donc moi, je veux être sûre que sa famille est en capacité de le surveiller, ne minimise pas ce qu'il a fait. Bon, j'imagine que non, hein, parce que quand même, voilà, il a quand même tué quelqu'un de 40 coups de couteau, donc c'est dur à minimiser. Mais j'ai pas hyper confiance, honnêtement, pas en la psychiatrie, mais en la justice, voilà.
Mais ce qui choque la femme de ce militaire Alban Gervais, c'est la durée, en fait.
Oui, complètement.
C'est-à-dire que s'il n'avait pas été jugé pénalement irresponsable, il aurait pris perpète, sans doute. Bon, là, il sera resté que 4 ans à l'hôpital psychiatrique. C'est ça qui... le sentiment d'injustice, il est là. Je pense qu'elle comprend qu'on ne juge pas les fous, comme tu le dis, Joël, parce qu'il ne se rendait peut-être pas compte à ce moment-là de ce qu'il faisait. Mais il se dit, donc finalement, la mort de mon mari, ça ne vaut que 4 ans d'hôpital psychiatrique.
Mais c'est le problème de... Je ne vais pas revenir sur le sujet précédent, mais c'est le problème de la justice, en fait. Je trouve que la justice...
Oui, ça, c'est les psys, hein. Les psys,
oui, mais
et le préfet qui valide.
C'est le juge qui dit, d'accord, oui. il demande l'avis.
Sachant que la psychiatrie n'est pas non plus une science exacte.
On n'a pas l'impression que la justice est faite pour les victimes, en fait. La justice, elle est toujours faite et adaptée à l'accusé. Et à aucun moment, on rend réellement justice à la victime. Comment tu veux expliquer ça à quelqu'un ? Et je parle même pas du fait que déjà, que je trouve que la justice ne me protège pas. Parce que ça, c'est un sentiment personnel. Je me sens plus protégée avec un policier à côté de moi pour pas qu'il m'arrive quelque chose, plutôt que si je me retrouve avec mon agresseur au tribunal, pour être complètement honnête. Je trouve que la justice ne me protège pas. Et comment vous voulez, au-delà de ça, que cet enfant qui a vu son père, parce qu'autant vous dire qu'à 20 mois, les images seront toujours là, sauf si elle fait un choc traumatique et qu'elle l'oublie. Comment voulez-vous que cette femme, que l'ensemble de cette famille se reconstruise en 4 ans? Qu'on estime que ça y est, il est plus nécessaire de
Il n'y a même pas d'éloignement géographique.
Non, il n'y a rien.
Il n'y a même pas d'éloignement géographique, ce que dit Sam. Potentiellement, je peux retomber sur lui au coin de la rue.
C'est comme si rien ne s'était passé. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ses impôts, cette femme a payé les soins de ce monsieur et ensuite, basta gousi.
Elle avait demandé à l'éloignement et la justice a refusé.
Mais il me semble que c'est quand même un strict
parce
minimum.
Parce qu'en fait, ses parents sont là et c'est une garantie aussi.
Mais encore une fois, c'est ce que je dis. La justice fait les choses en fonction de la...
Si les parents étaient une garantie, je veux dire, ce monsieur, il n'aurait pas commis ce meurtre.
Oui, bah, peux être père d'un parent d'un schizophrène.
Si,
responsable.
Oui, mais je veux dire, si la psychiatrie était garantie, si ce monsieur a été suivi, il n'aurait pas commis ce meurtre.
Parfois, tu sais pas, tu sais, la folie, ça peut se déclencher, elle peut devenir meurtrière.
Mais est un consommateur assidu de cannabis. Et une fois que, si tu veux,
il était positif au cannabis.
Il était positif au cannabis, mais une fois qu'il était plus positif au cannabis, on a décelé chez lui une pathologie psychiatrique.
Oui, le cannabis,
qui a été accentué par la consommation aiguë de cannabis.
C'est encore pire, parce que ça veut dire que si c'est un consommateur régulier de cannabis, les lésions cérébrales qu'il a reçues sont irréversibles. Donc c'est-à-dire que ce mec-là ne peut pas être réellement soigné.
À l'époque, il disait agir au nom de Dieu. Hein,
oui.
Ce qui fait que quand même la piste terroriste avait été envisagée.
Ça rappelle le meurtre de Sarah Halimi.
Et elle a été étrangement écartée alors que les faits ont été commis devant une école catholique, cible potentielle de l'islamisme radical. Donc si ça se trouve, il est possible aussi que ce soit une affaire terroriste qui a été
maquillée en
gentiment considérée comme
l'affaire Sarah Halimi,
problème psychiatrique.
Moi, je voudrais savoir, toi, tu le sais mieux, Charles, s'il décide de pas rentrer chez ses parents le soir,
il va en taule.
Normalement, il doit être incarcéré.
Il brise son contrôle.
D'accord, mais est-ce qu'on va aller le chercher ? Est-ce qu'on va déclencher les moyens pour le retrouver ou pas ? Si tu veux, au bout de combien de temps ? Est-ce que sa famille va dire il est pas rentré ? Qu'elle va alerter ?
Moi, j'ai
si
une question.
Les failles, malheureusement, il peut y en avoir.
J'ai presque une question un peu cynique, compte tenu de l'état de nos finances et l'état de.
Est-ce qu'on ne vide pas l'hôpital ?
Exactement.
Oui. De la place.
Est-ce que c'est
la place ?
Oui, parce que tu le vois partout. Tu le vois, les prisons sont surpeuplées. Les hôpitaux, il n'y a plus de place. Enfin, je veux dire, moi-même, il y a deux ans, quand je me suis fait opérer, je veux dire, avant, tu avais une convalescence à peu près, on te laissait 3 jours sur surveillance à l'hôpital. Là, le lendemain, on m'a dit, vous pouvez rentrer chez vous.
Tu sais qu'aujourd'hui, si tu es condamné à moins de 2 ans de prison, tu ne vas pas en taule. Donc, parce qu'il n'y a pas de place.
Donc,
j'ai été dans la loi même.
Je ne veux pas penser comme ça, mais j'ai vraiment une vision un peu cynique de la chose.
T'as raison.
Christelle veut réagir. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Quel prénom de la femme d'Alban?
Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle, alors?
Bah écoutez, moi je suis aussi assez étonnée de du retour des magistrats, quoi, enfin de ce genre de décision. Alors je suis d'accord avec Charles qui disait tout à l'heure qu'effectivement c'est un peu facile de mettre les gens avec un problème psychiatrique sur des choses aussi importantes, et puis bon, ça minimise un petit peu les peines. Donc moi je suis effarée parce que comme je disais tout à l'heure au standard. Le problème, c'est que les juges, on l'a déjà vu dans des affaires passées, quand ils prennent la mauvaise décision, bah, ils sont intouchables. On ne remet jamais personne la responsabilité de ces pertes des magistrats. Et donc, pour moi, je vais vous donner une image. Vous voyez la mythologie grecque. Bah, pour moi, les magistrats, c'est ceux qui sont dans les nuages et qui sont intouchables. Voilà. C'est pour moi, ils sont intouchables. Ils peuvent faire, ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde, et on peut rien faire. Voilà.
C'est-à-dire, donc, vous interrogez, Christelle, si jamais, et on, bien sûr, il ne faut pas le souhaiter, si jamais cet homme repasse à l'action et recommet l'irréparable, est-ce qu'on saura se retourner à ce moment-là vers les psychiatres ou vers les juges qui auront décidé de le libérer, quoi?
Personne ne remettra en question encore, on l'a vu avec des gros cas de, je vous dis, des affaires très, 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 très graves passées, et les
on juges. On remet jamais en cause le juge des libertés qui remet en liberté un individu qui va repasser à la.
En même temps, si on raisonne comme ça, aussi, on inhibe complètement les juges à prendre la moindre, je parle pas du cas là en question qui paraît assez scandaleux, mais à prendre la moindre décision de remise en liberté.
Dans ce cas,
vous responsabilisez dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois ils maintiennent aussi en détention d'une manière aberrante.
Eh bien, il faut aussi
ça arrive très souvent.
Le dénoncer
oui, mais comment veux-tu les responsabiliser là-dessus? C'est très difficile de dire. Vous avez maintenu une détention qui n'était pas justifiée. Donc il faut quand même. Il faut pas les laisser n'importe quoi, mais il faut quand même les laisser aussi libérer de temps en temps ou de.
Non, mais tu, Charles, tu sais très bien qu'il y a un problème de rendre compte du côté des magistrats.
Oui, ça c'est vrai.
Ils rendent des comptes, mais
les recours sont bidons.
Alors propre corporation.
Les recours sont. Mais non, mais même.
Dans des cas comme ça, c'est pas possible de faire avec des jurés, justement.
Oui. Alors non. Mais ça pourrait exister, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que ça n'est pas le système français.
Christelle, on va écouter Yannick qui veut intervenir. Il est dans le Vaucluse. Bonjour Yannick.
Bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous aussi, comment réagissez-vous Yannick à cette histoire?
Comment je réagis? En fait, c'est devenu la normalité. Qu'est-ce qui vous étonne? C'est la France, voilà. Moi, donc là, j'ai pris les GG, là, il n'y a même pas un quart d'heure, le premier sujet, voilà, ça m'est déjà, en fait, ça m'énerve déjà. Donc je voulais remercier les GG. C'est souvent, en fait, je vous écoute souvent, très, très, très souvent, et c'est souvent que je veux réagir, et je l'ai déjà fait quelques fois, là, par le passé. Mais voilà, un sujet, en fait, c'est la normalité. Vous êtes posé la question, cette personne, est-ce qu'elle va recommettre, est-ce qu'elle va repasser à l'acte? Mais bien sûr qu'elle va repasser à l'acte, c'est un fou. Il va être suivi, ça sera un fou.
Sauf s'il prend ses médicaments, parce que dans ce cas-là, c'est des médicaments qui doivent un peu l'abrutir.
Il dit bonjour à ses voisins, il rentre ses poubelles. Non, il faut arrêter à un moment donné. Moi, j'exerce un métier, voilà, où, alors, je peux être un petit peu confronté à ça, avec des personnes qui arrêtent leur traitement, d'accord?
Ouais,
et puis,
ça,
de nouveau, il y a peut-être pas un passage à l'acte, mais il y a une très forte tendance à un passage à l'acte. Moi, j'ai des enfants, d'accord? Des enfants qui ont 2 ans et 5 ans. Si je me mets à la place de la maman, c'est la mère de famille, c'est Christelle, c'est un petit peu de bêtises.
Oui, c'est Christelle.
La petite fille, elle avait 20 mois aujourd'hui, elle a la capacité de comprendre, elle a 6 ou 7 ans, que son papa, il était tué donc par cette personne-là, qui va être de nouveau demain dehors.
Mais vous imaginez
déjà, en fait, et qu'elle peut croiser aussi. Vous imaginez le trauma que ça peut créer sur la suite de sa vie. Enfin, c'est la normalité. Alors tout à l'heure, l'auditrice précédente a fait référence au de l'Olympe. Oui, c'est vrai que c'est bien trouvé.
Ils sont au-dessus de tout, quoi. En fait,
voilà.
C'est ça.
Oui. Alors, je vais peut-être pas. Oui, c'est sûr qu'il y a une forme un petit peu de personne intouchable. Mais moi, surtout, je rejetais la faute sur le fait que l'État n'apprend pas de ses erreurs. Regardez la petite Lola. La personne de la meurtrière était connue. Alors voilà, on reparle de cette affaire-là, on remet le couteau dans la plaie. Mais c'est
vous avez raison.
Profil,
il y avait le jeune homme aussi, vous savez là, avec qui a été tué d'un coup de machette avec deux jeunes qui ne devaient pas se voir, pas se rencontrer. Et
un jeune Elias.
Oui, c'est Elias. Ils habitaient dans le même immeuble, effectivement.
Ce sont des sacrifiés, on ne se met jamais dans la peau. Enfin, nous, oui, parce qu'on est parents, mais on ne se met pas dans la peau des personnes, des victimes, en fait. C'est toujours pareil, ce sont des personnes sacrifiées, mais ce n'est pas grave, il y a plus important que ça. Continuons bientôt la Coupe du Monde, on s'en fout, on ne va plus en parler.
Mais il y a la jeune Karine aussi, cette jeune femme qui avait été violée, le violeur vient d'être libéré et il est installé à côté de chez elle.
Oui. Mais il y en a plein. Mais
donc c'est-à-dire que quand elle va faire ses courses, elle potentiellement peut tomber sur celui.
Je suis autant énervée sur les sujets qu'on évoque.
On est tous énervés.
Non, mais c'est dans le sens où si effectivement on avait confiance en notre justice, il n'y aurait pas de problème. Mais regarde,
allez-y,
c'est ce qu'on entend.
Je vous coupe, désolé, parce que mon temps est compté, vu que je ne peux pas parler toute la journée. Ces sujets-là, vous les avez déjà abordés. Vous les abordez aujourd'hui encore et vous les aborderez demain. Ça sera toujours pareil, sauf que là, le monsieur, je ne me souviens plus son prenom, et demain, ça sera un autre, et ou demain, ça sera une autre, et on dira, et vous allez refaire un sujet de 15 minutes, et ça va changer quoi? Ça va mettre en colère les gens, et bientôt, on passera une justice faite par nous-mêmes.
En fait.
On ira en prison, c'est pas grave, mais on aura au moins,
Il faudrait simplement apporter une réponse à cette femme qui, à mon avis, se posait bonne question, et dit, il est resté seulement 4 ans à l'hôpital, est-ce que c'est une sanction? Est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas récidiver? On sait quand même que l'administration peut avoir quand même quelques dysfonctionnements dans le suivi de ses décisions.
Rappelons-nous M. Prison, là, qui a tué son ex-compagne.
C'est des questions légitimes. Il faudrait peut-être trouver des moyens de dire.
Mais là, je me tourne vers Charles. Est-ce que ça doit remettre en cause l'irresponsabilité pénale? Parce que tout à l'heure, toi-même, tu t'interrogeais. On dit on ne doit pas juger on ne doit pas juger les fous.
Oui. Si tu veux, un gars qui se pointe devant une école catholique et qui, au nom de Dieu, en l'occurrence le concernant, au nom d'Allah, poignarde un militaire français.
J'ai dû chercher son nom.
Je fais pas l'enquête à la place des enquêteurs, bien sûr, mais
sinon c'est grosse.
Tout à coup, décréter que ça n'est pas du terrorisme, simplement un.
Il était sous l'emprise de cannabis et il avait des antécédents psychiatriques.
Voilà. Oui, d'accord, mais tous les terroristes. Tous les terroristes sont dingues. Il faut être dingue pour basculer dans le terrorisme.
T'as raison.
Les faire quoi chier, étaient dingues. Enfin, je veux dire, faut être complètement dingue pour faire ce qu'ils ont fait.
Se faire exploser, pareil. Quand même un peu fou.
Donc quoi, psychiatriser tous les.
D'accord.
Le terrorisme deviendrait une cause d'irresponsabilité pénale, finalement.
Dans ce cas-là, parce qu'on peut imaginer que
dans ce cas-là, tous les meurtres.
Oui.
Moi, je trouve que c'est un peu court et je me demande si on n'a pas un peu.
Jugé pourtant, on l'a fait.
Si on n'a pas commodément.
Dans l'histoire,
envoyé tout ça en.
Ouais, dans cette histoire, le cannabis ne doit pas être une circonstance atténuante. Oui, mais il avait pris le cannabis, il savait plus ce qu'il faisait. Au contraire, et quand tu prends du cannabis, tu prends en responsabilité.
Bah oui, quand tu regardes, quand si tu tues quelqu'un au volant en étant alcoolique, c'est une circonstance.
Sur les 4 ans, je me demande, parce que quand quelqu'un est condamné à une peine, je sais pas moi, t'as 15, 20 ans, etc., avant qu'on le remette en liberté, j'imagine que le juge des libertés évalue un peu en disant, il était condamné à 20 ans, on va pas le remettre en liberté au bout de 3 ans, même s'il se comporte hyper bien. Mais là, avec un cas comme ça où il y a pas de condamnation, il y a pas de peine originelle, et ben les médecins, ils ont pas une peine globale à laquelle se référer en disant ouais bon là 4 ans ça fait un petit peu court comme ça. Donc en fait ce qu'ils auraient dû faire, c'est se référer à l'horreur du crime en se disant ouais quand même au bout de 4 ans c'est un peu léger quand même.
Et parce que encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, les peines, les conséquences, les aménagements, tout est pensé pour l'accusé, mais jamais pour les victimes qui sont à côté.
Et la question est de savoir, est-ce que la famille est un garde-fou suffisant? Parce que là, on fait confiance aux parents.
Mais personne n'est capable de
le meurtrier présumé d'Alban Gervais qui a été libéré, est-ce que vous trouvez ça scandaleux au regard de ce qu'on a entendu avec Christelle, avec Yannick à l'instant?
Il y en a qui disent.
On peut imaginer qu'on est pas loin du 100%. Voilà. On est à 100% de oui, effectivement. Dans un instant, avec les juges, avec les grandes gueules, on va regarder ce qui s'est passé à Deauville et à La Baule. Avec deux villes, normalement, plutôt calme, pas réputé pour qu'il y ait des incidents. Bagarre rangée du côté de La Baule. Un homme interpellé parce que il arrêtait pas de crier dans la rue, si je vois un juif, je le massacre. Pardon pour ce que je vais dire, hein. J'encule les juifs et Jérusalem, foutez le camp. Voilà ce qui se passe à Deauville. Merci, et plus la bagarre à La Baule. On en discute avec vous au 32-16, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les grandes gueules, 10h25. Aujourd'hui, Charles Consigny, Laurent Vartan-Martinez et Joël Dagosséry, nos trois GG qui sont avec vous au 32-16. On va regarder ce qui se passe du côté de Deauville et La Baule, qui sont pourtant des zones de quiétude absolue. La Baule, connue pour ses plages, son soleil, deux fois par an. Et puis le fait qu'on puisse
des années de canicule,
c'est s'y balader tranquillement, sereinement. Deauville, exactement pareil, à 2 heures de Paris, où on peut déguster des fruits
une fois
de
par an,
des fruits de mer avec un pull croisé sur les épaules et être peinard.
Une grosse doudou.
Et là, finalement, c'est impossible. Deauville et La Baule sont en train de basculer.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que ce sont deux stations balnéaires qui ont plutôt l'image de stations bourgeoise,
voilà, oui.
Alors attirant d'ailleurs beaucoup de Parisiens, alors Deauville le week-end, La Baule quand tu as 3-4 jours, l'Ascension, etc. Alors à La Baule, on s'est aperçu qu'il y avait des bandes de délinquants qui foutaient le bazar sur les plages, avec des tirs de mortier, voilà, des incivilités à répétition. Le maire de La Baule, Franck Louvrier, maire LR, ancien conseiller com de Nicolas Sarkozy, explique le phénomène en disant ces gens-là viennent de Nantes. C'est-à-dire c'est tous les petits délinquants des cités, en gros de Nantes, qui viennent passer la journée sur la plage de La Baule et qui sèment la pagaille. Et alors à Deauville, j'ai envie de dire que c'est encore plus grave parce que
Nantes et Saint-Nazaire, paraît-il.
À Deauville, c'est un père de famille qui a entendu un jeune homme qui était en train d'apostropher des passants sur la plage, la longue plage de Deauville, en criant « Il n'y a que des Juifs ici, au nom d'Allah, je vais les tuer ». Des insultes donc et des menaces de mort à caractère antisémite. Donc la police est intervenue. Cet homme criait sur la foule et alors il a été interpellé, mais il a tout de suite été relâché. Pas de garde à vue. Donc il est reparti libre comme l'air.
Alors qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées, oui. Parce qu'il avait notamment perdu son permis de conduire qu'il n'avait jamais redonné aux policiers.
Visiblement, ce garçon a l'air aussi perturbé. Mais la police n'a pas jugé bon. Donc le procureur de Lisieux, la procureure, c'est une femme, Élise Baillet, a confirmé qu'aucune garde à vue n'a eu lieu avec les faits, du moins à ce stade. Alors ça peut pas dire qu'il sera pas interpellé. Enfin bon, c'est vrai que tout de suite, on le libère. Que se passe-t-il à Deauville et à La Baule?
Joël.
Non, mais je crois que la France, c'est un peu comme une cour de récréation d'école primaire. Quand tu cherches un peu un point d'ombre et que tu ne le trouves pas, bah, en France, maintenant, tu cherches un coin de tranquillité. Ça devient de plus en plus difficile. Et même des endroits qui étaient préservés, puisque assez bourgeois, ou même des fois, c'est pas même bourgeois, c'est juste que c'était,
dans les campagnes,
préservé, voilà. Bah, t'as plus un coin d'ombre. Tu prends le métro, t'as trois fous sur la rame, tu montes un escalier, t'as trois dealers sur le quai, tu prends ton train, t'es pas sûr d'arriver à temps. Quand t'arrives, t'as des bagarres sur la plage. Enfin, je veux dire, il y en a quand même marre. Effectivement, moi, j'ai été plusieurs fois à Nantes et La Baule est pas très loin. Donc, il y a un moment où, ça déborde. Tu vois, quand t'es dans une ville n'est pas prise en charge, faut pas penser que ça va se circonscrire uniquement à la ville, même d'ailleurs au quartier en question, parce que des fois la ville est tranquille, puis t'as 2-3 quartiers. Bah non, ça, à un moment ça déborde. Voilà, ça déborde. Et ça, il faut en être très conscient. Donc moi, je m'explique pas comment ces jeunes. D'ailleurs, j'avais vu une scène où ils prenaient le train, je crois.
Oui, c'est ouais.
C'est ça.
Ils sont bastonnés sur la gare
pour s'y rendre.
Ouais.
Je suis désolée. Tu peux aller t'amuser. T'as le droit d'aller à la plage dans la ville d'à côté, etc. Parce qu'à Nantes, bah oui, il n'y a pas de plage, etc. Et t'as de la chance de vivre dans une région côtière, donc t'y vas. T'as le droit de le faire, mais arrête de foutre la merde, quoi. Franchement, je suis désolée, arrête de foutre la merde. Il n'y a pas à excuser ce genre de truc.
Oui, mais...
Je vois pas, j'ai vu les images, je vois pas, il n'y a pas rien dans l'image où je m'explique, où il y a
pourquoi
quelque chose à excuser. C'est des fouteurs de merde. Et il y a un moment, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Et je te jure que moi, je me suis souvent dit ça, enfin, parce que mes parents disaient ça. Ils disaient souvent, si je vous attrape dans un truc comme ça, ou si on m'appelle de l'école, ou si la police m'appelle pour vous, on était déjà au courant. Je veux dire, il n'y a pas moyen que tu te mettes dans un truc. Oui, et d'ailleurs, comme moi,
j'avais pensé que j'avais déjà la sanction.
Voilà, moi j'ai grandi en quartier, etc. Bon, je suis une fille, donc c'est un peu plus tranquille. Mais par exemple, pour mes frères, t'es avec tes copains et tout. Quand tu sens que ça dérape, tu sais, ils vont faire d'autres trucs et tout. Tu te barres. Toi, tu rentres à la maison parce que tu sais que t'as pas envie qu'on appelle ton père. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est des gros fouteurs de merde. Et j'espère qu'on va les attraper par le cul un à un, pardon de parler comme ça, parce que je commence à en avoir assez.
Oui, mais tu vois, Joël, en fait, pourquoi est-ce qu'ils se permettent ça? Parce que derrière, ils savent qu'il ne va rien se passer.
C'est un sentiment d'impunité.
Mais oui, parce que prenons le cas du jeune là qui balançait les excuses antisémites. Il est déjà officier des personnes recherchées. Ah, voilà. Et il est dehors, il ne rend pas son permis, on ne va pas le chercher.
Mais déjà, pour en arriver, tu sais, publiquement, plus de ville, c'était le week-end de la Pentecôte, donc imagine, c'est noir de monde. Tu vois. Donc tu es là, publiquement, et que tu dis, ouais, est-ce qu'il y a des juifs? J'ai envie d'en tuer un.
Tu sais qu'il va rien t'arriver si tu le fais.
Faut quand même avoir un cul au monstre de faire ça.
Mais oui, mais en fait,
faut être particulièrement haineux aussi.
Tous les maux de notre pays arrivent toujours à la même conclusion, que ce soit les manifestantes là qu'on a condamnées en disant, t'as pas à faire ça. Mais ça vient pourquoi? À chaque fois, la réponse derrière, c'est, mais il y a rien derrière, il y a pas de justice, il y a pas de condamnation, il y a pas de...
Et pourtant, t'as des grands discours des ministres de la justice.
Et oui, mais au final, il se passe rien.
Et les prisons sont pleines.
Qu'est-ce qui fait qu'une fille qui se fait agresser, elle est vent debout et que ça manifeste tout le monde? Parce qu'il y a rien derrière. Qu'est-ce qui fait que les gens regardent, là, t'as un mec qui tue avec 40 coups de couteau, au bout de 4 ans, il est dehors. En fait, on se dit quoi? C'est normal que ça se bordélise de tous les côtés. Un flic, un délinquant qui fout le bordel, qui fait une roue arrière sur la 86, le flic, il va peut-être la voir après 6 fois dans le comico avant qu'il se passe quelque chose.
Et pour la boule, vous avez entendu ce qu'a dit Franck Louvrier. Il dit, voilà, ça vient de Nantes.
Et de Saint-Nazaire.
Et alors, en fait,
Charles. Moi, je suis pas...
Souvenez-vous qu'à Deauville, il y avait un rabbin qui avait été agressé aussi l'année dernière à coup de chaise, hein, coup de chaise dans le visage, hein, aussi. Faut pas oublier. C'était le 30 mai dernier.
Je ne suis guère surpris. C'est malheureusement l'éternel problème de nos jeunes Kaira dont nous ne savons que faire. Il faut dire les choses comme elles sont. Et voilà, même effectivement les bleds les plus embourgeoisés comme la Baule où on
ne sont plus à l'abri.
Où les gens vont précisément pour être. Alors on peut les aider, on peut ne pas les aimer, on peut j'imagine
chercher
que
la tranquillité, c'est pas
j'imagine que Radio Nova n'aime pas la Baule, si tu veux. Hein, je suis certain que Guillaume Meurice n'aime pas la Baule, parce que lui, il préfère les racailles aux pulls sur les épaules.
Je pense pas qu'il vit avec les racailles.
Ah, c'est joli, c'est un haïku. Guillaume Meurice n'aime pas la Baule, il préfère les racailles aux pulls sur les épaules.
Mais c'est une réalité.
En Alexandra,
il y a toute une boboserie, si tu veux, qui n'aime pas ces gens qui sont en rupture avec la boboserie, justement, et qui voudraient être peinards avec les chaussures bateau, le pull sur les épaules, le journal du dimanche et un verre de rosé. Bon, même eux maintenant, c'est marrant. Ceux qui considèrent qu'il y a un problème sur la sécurité, un problème sur l'immigration, un problème de laisser-aller général dans notre pays, se voient confirmer dans leur suspicion sur la plage même de l'endroit où ils essayent d'échapper à ce qu'ils craignent. Ça, c'est quand même intéressant, je trouve.
On a Jérôme qui veut réagir du côté du Var. Il est à Montauroux. Bonjour Jérôme.
Bonjour les Gégé.
Est-ce que vous partagez l'avis général de Joël à Laura et Charles? Rien ne va plus là aujourd'hui, Jérôme.
Mais je partage cet avis et je pense que comme beaucoup de personnes, je m'estime respectable, donc j'allais dire comme beaucoup de personnes respectables, je trouve ça scandaleux que ce genre d'image puisse en effet être visionnée sur les réseaux. Et c'est ce que je disais à Clément tout à l'heure, je trouve ça quand même incroyable parce que il y a en effet une forme d'injustice des gens, en effet, qui ne demandent rien à personne, qui veulent vivre tranquillement. Il y a une vraie forme d'injustice pour nous. On voit déferler, en fait, des hordes d'individus dans des lieux de villégiature, en fait, qui représentent quand même quelque chose, parce que la Baule, c'est le lieu de villégiature où il y a le plaisir, en fait, à la française, oui, en fait, de vivre et de pouvoir profiter un petit peu d'un moment de loisir. Et on voit des gens arriver, en fait, qui sont là pour fracasser tout ça. Et le véritable problème, et je pense que Charles a dit ça, c'est qu'il n'y a en fait aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Les forces de l'ordre, et je les blâme absolument pas, en fait, sont...
Bah là, celui qui a été interpellé à Deauville a été interpellé et relâché. Alors qu'il était au fichier des personnes recherchées. Donc là aussi,
donc il n'a pas été...
D'ailleurs, il n'aurait pas dû être relâché.
Mais voilà, c'est ce que je dis. Donc là, il y a une incompréhension.
Il aurait dû passer en comparution immédiate. Il aurait dû passer en comparution immédiate.
Je pense qu'en fait, il y a une vraie incompréhension pour nous parce que par contre, c'est aussi pas de la faute. C'est pour ça que je veux vraiment insister là-dessus. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas, ce n'est pas de la faute des forces de l'ordre pour le coup, parce qu'ils sont pieds et mains liés par la
bien-pensance
certaines partis politiques d'une certaine branche en fait de notre politique en France. Il y a une vraie bien-pensance où il ne faut pas taper trop fort, il ne faut pas réprimer trop fort en fait. On n'a pas en fait la capacité de, tout simplement parce qu'on leur a enlevé. Vous allez en Espagne, pas très loin, c'est en Europe, ils sont dans l'espace Schengen. Ces mecs-là, en fait, ils se seraient fait réprimander sur place très rapidement. Il y aurait eu des vidéos avec un ou deux doigts retournés. Ça n'aurait pas choqué en fait la population espagnole. Au contraire, ils auraient dit force doit rester à la loi et ils ont fait le boulot en fait. Et en France, normalement, force doit rester à la loi. Et maintenant, c'est les racailles qui ont la force. Et nous, on paye nos impôts, on fait le nécessaire, on subit. Voilà. Jérôme, par contre, on nous tombe dessus.
Jérôme. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été dans les jugés. Alors, on a posé la question de manière un peu provocatrice. Est-ce que du coup, Deauville et La Baule sont en train de devenir des zones de non-droit, là où on y allait pour être tranquille, justement.
Ouf. Ah ouais.
Alors, décidément, on est dans la nuance aujourd'hui. C'est oui à 95%.
Tous les sujets.
Et il est 11h20.
De l'énervement au 32-16.
Il est 11h20. Ça vous dit de parler un peu de sexe pour se détendre? Enfin, on va en parler plutôt que de le faire. Parce que
c'est pas mon truc.
Si on regarde les chiffres pour les 18-24 ans, ils sont de moins en moins tentés par le sexe. Comment est-ce que ça s'explique? Restez avec les GG, avec les grandes gueules. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Bravo. Non mais là il se passe un truc là dans les chéchés, dans les grandes gueules. C'est on a Joël et Charles qui sont en train de grignoter depuis tout à l'heure. Ils n'arrivent même plus à parler. Vous savez ces petits bonbons au chocolat de couleur. Ils ont des lettres comme marque, comme nom.
Des M&M's. Pas des marques, on a dit.
Ça nous aide à tenir, ça nous donne de l'énergie.
Vous avez un problème?
C'est délicieux, les M&M's.
Oui, je suis accro après.
C'est-à-dire qu'on leur a dit sucre. On va parler de sexe et tout d'un coup,
non,
se sont réfugiés dans les
bonbons. On leur a dit qu'on allait rembourser les médicaments contre l'obésité.
Ah, bien, donc, c'est bon.
Alors, peut-être qu'il y a un manque de sexe et ils se rabattent sur.
Je dis, moi, je pense que
le sucre.
On ne dira rien.
Eh bien, on en parle au 32-16 avec vous maintenant, il est 11h20.
Moi, je sais pas,
c'est une étude intéressante sur le sexe et les 18-24, 18-25 ans. En fait, ils boudent le sexe. Ça, c'est incroyable.
Oui, alors c'est vraiment aînés. Surprenant, parce que, alors, effectivement, la question, est-ce que le sexe est indispensable pour vous? Oui, seulement 9% de oui parmi les 15-24 ans. 14%, c'était en 1990, donc seulement 9%. Et alors la question, est-ce que le sexe est important? Donc le critère est différent, le sexe est-il important pour vous? 38% des 15-24 ans disent oui seulement. En 1990, ils étaient 62%. Que se passe-t-il? Les jeunes se détournent du sexe. Est-ce la faute des algorithmes, des smartphones, de Netflix? Est-ce la faute aussi de l'environnement général? Il y a beaucoup de jeunes qu'on interroge qui disent non, mais on peut même envisager d'être en couple, mais un couple sans sexe.
Oui, non, mais voilà.
Ou c'est la faute des adultes qui ne s'occupent plus des jeunes.
On se demande pourquoi les jeunes sont des
changements. Les adultes avaient une responsabilité.
Laura.
Maintenant, on leur interdit. Bon,
voilà. C'est une vanne. Hein. Team, j'aime de l'humour.
Hashtag humour.
Hashtag humour.
Oui, il faut mieux préciser quand même.
Laura.
Mais non, mais après.
À ton avis, c'est dû à quoi?
Mais je sais pas, mais après, on se demande pourquoi le monde part en cacahuète. Bah, évidemment, ils sont aigris.
En M&M's.
je sais pas, parce que moi, je fais partie aussi de la génération. Alors, j'avais pas le téléphone greffé à la main. Enfin, si, mais moi, j'avais le droit qu'à 100 SMS, une demi-heure d'appel. Sinon, après, c'est t'appel, j'ai plus d'unité. Mais je suis au début de MSN, des Skyblog, des machins. Donc, j'avais aussi l'ordinateur.
mais ça nous empêchait pas de nous voir et tout. Et ça me fait penser à un sujet que vous avez traité aussi, que les gamins, ils allaient plus en boîte. Mmh. Et en fait, c'est plus, maintenant, on est amis à travers le, oui. À travers les téléphones, etc. Avant, c'était, bah, nos parents nous avaient dit, bah, tu rentres à 18h30, on se dépêchait de manger et on se retrouvait sur MSN pour continuer de se parler en même temps. Maintenant, l'écran est plus présent que le réel contact humain.
Et donc, du coup, ça annule un peu l'envie de rencontrer l'autre.
Bah, t'as ça, t'as le fait que le téléphone, maintenant, il te suit même jusque dans ta chambre à coucher. Donc, en fait, t'as l'iPad, le téléphone, la télé. Libido.
C'est uniquement à cause des smartphones.
Joël.
C'est le gros changement qu'il y a, je
le
trouve.
Le sexe, bah, notamment pour les femmes, je ne sais pas du côté des hommes, parce que comme vous êtes en rut, on ne sait pas. Je rigole.
On est en rut.
Non, je rigole, là, vraiment, c'est de l'humour. Hashtag humour.
Tu veux dire qu'on gratte du sabot tout le temps, en fait.
Exactement, mais je veux dire, pour les femmes.
Jeunes, on ne parle pas des plus de 60 ans.
Oui, oui.
Tout va bien, merci.
Des balles perdues, c'est génial.
Non, mais c'est lié à la connexion d'abord humaine et affective. Et là, Laura, moi, je la rejoins. Genre, la connexion humaine et affective, tu l'as maintenant dans ton smartphone. Mmh. T'as l'impression d'avoir plein d'amis. Il y a toujours des trucs à regarder. Dans ton cerveau aussi, il est alimenté. Je veux dire, il est surexcité. Je me demande d'ailleurs si c'est pas les mêmes zones. Faudrait voir avec les neurologues. Si c'est pas les mêmes zones qui s'allument dans le cerveau pour le sexe que pour lorsque tu vois une vidéo, par exemple, je sais pas, sur TikTok. Donc, peut-être que ton cerveau, il reçoit ce même type d'excitation, etc. Et que t'as l'impression de moins en avoir besoin. Pour les femmes, moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait, notamment chez nous, les femmes. Et t'as des femmes, en fait, qui maintenant, et d'ailleurs, je trouve ça assez heureux, qui acceptent de moins en moins de faire du sexe sous pression. Quand je dis sous pression, c'est pas de viol ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour faire plaisir.
Sociale,
voilà.
Plaisir,
pour faire plaisir à son mari. Compagnon. Donc, l'idée de devoir, entre guillemets, conjugal. Et donc, étant donné que les mentalités ont évolué sur ce point-là, et ben effectivement, peut-être que t'as une baisse de ce côté-là parce qu'elles se disent, bah non, là, j'ai pas envie. Parce voilà.
Alors, déjà, ça explique pourquoi la natalité baisse aussi, c'est sûr. Là, on est mal barré.
C'est pas pratique.
Et ce qui explique l'IFOP, c'est qu'en fait, il y a une dissociation croissante entre conjugalité et sexualité. C'est-à-dire, les Français n'associent plus de la même manière vie de couple et vie sexuelle. Il y a des femmes, effectivement, qui estiment qu'elles ont moins envie de faire l'amour, donc, mais ça n'empêche pas d'être en couple. Et ça, c'est peut-être nouveau dans la nouvelle génération. Alors, avant, il y avait ce qu'on appelait le devoir conjugal.
Ouais, non, mais fais quand même, t'as moins de relations avec ton partenaire.
Regarde l'avènement aussi du gadget.
La première année,
c'est du fameux, c'est quoi son nom, qui a cartonné, mince.
Un vibromasseur?
Ouais, le womanizer.
Ah oui, womanizer.
C'est
oui.
Ça, l'avènement du womanizer.
Ah oui.
Qui a été un carton.
Donc, on a plus besoin de mecs, c'est ça?
Ben, si, oui, mais en même temps.
Attends, Laura, parce que tu m'as l'air de connaître.
Mais c'est pas ça. C'est qu'un jouet, vibrant, je vais rien apprendre aux femmes de ce pays que la plupart d'entre nous ne sommes pas vaginales mais plutôt clitoridiennes, mais il n'y a rien de mieux au monde qu'un jouet qui vibre avec son partenaire.
Ah oui, les deux.
Ah oui, donc il y a le besoin du partenaire
Il y a beaucoup de femmes qui vont se contenter du jouet.
Non. Je voudrais pas dire du côté des hommes, mais quand même, on a quand même une grosse pelletée d'hommes déconstruits. Ça donne pas envie. Tu m'excuseras.
Je préfère que ça soit toi qui le dise.
Excuse-moi. Non, parce que t'as tout un tas de nanas qui se mettent avec des hommes déconstruits, qui comprennent tout de la femme, qui sont à l'écoute de tout de la femme, qui sont même eux plus féministes que les féministes, etc. Oui, alors le partage des tâches, c'est important. Et en fait, ils sont tellement déconstruits. Alors les femmes se disent, c'est génial. Moi, j'ai trouvé mon homme déconstruit, il me comprend. Puis à la fin, il me donne plus envie. Bah ouais, mais il est pas sexy, hein. Bah ouais.
Il est trop féminin.
Ouais, bah oui, à la fin, ça donne pas envie, un homme déconstruit, je suis désolée. Donc, faudrait quand même.
Heureusement que c'est toi qui le dis, parce qu'aucun des hommes présents sur ce n'aurait pu dire ça avant de se prendre.
Ah ben non, parce que si on dit ça, on va être traité de macho.
Bien sûr.
Masculiniste. Je suis pas d'accord.
Masculiniste, c'est le nouveau mot.
Charles.
Non, moi, je trouve ça en tout cas merveilleux, cette société, où les gens vont finalement peu à peu s'enfermer sur une espèce de bulle dans laquelle ils seront définitivement seuls. Je crois que c'est l'avenir qui se dessine. Je pense effectivement qu'il y a plusieurs facteurs. À mon avis, le facteur des écrans est quand même considérable parce que les gens sont...
La série Netflix a du mal, à mon
extrêmement
avis.
Drogués à leurs appareils électroniques et ont de plus en plus de mal à voir ce qui se passe, ne serait-ce qu'autour d'eux. Il suffit de prendre un transport en commun, par exemple, pour voir qu'il y a des gens, ils peuvent faire tout le trajet sans croiser le regard
ou même sans regarder un autre passager. Donc, je pense que ça joue un peu. Je crois aussi à ce qu'a dit Joël, même si je pense effectivement que c'est mieux si c'est une femme qui le dit. Je pense qu'il y a, non, mais dans les rapports sexuels, il y a par exemple souvent des rapports de domination. Et je pense qu'on est arrivé à un tel point, un tel fanatisme égalitaire aujourd'hui, que je pense que les jeunes n'arrivent plus à rentrer dans ce type de rapport, par exemple. Parce que, oulala, attention, il faut tellement se respecter, tellement faire attention à l'autre et surtout ne pas l'offenser, etc., etc. Bon, bah, forcément, dans ces cas-là, voilà. Je regardais il n'y a pas très longtemps avec une jeune personne de ma famille, très féministe, etc. Un vieux film justement qui s'appelle La Baule les Pins. Très mauvais film d'ailleurs, avec Nathalie Baye et Vincent Lindon. Et dedans, Vincent Lindon dit à Nathalie Baye, tu es à moi, etc. Il est très ardent, il est très beau d'ailleurs à l'époque, elle aussi elle est très belle. Bon. Eh bien, cette personne de ma famille très féministe n'aimait pas du tout entendre Vincent Lindon dire « tu es à moi ». Elle disait « ah bah voilà, voilà un homme toxique, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu es à moi, tu es à moi ». Bah donc oui, forcément, un rapport sexuel complètement égalitaire, c'est pas toujours le truc le plus folichon qui soit.
Tu vas te toucher.
Donc, je pense effectivement que le mouvement MeToo, etc., tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, 15 ans, effectivement, aboutit peut-être quand même un petit peu à tuer le sexe et à tuer le désir chez les jeunes. Il faut quand même le dire, puisqu'on parle librement. Mais ça, ceux qui mettaient en garde contre ça, il y a 5-10 ans, étaient des nazis.
Surtout si c'était les hommes qui en parlaient.
Surtout
si
Nicolas, moi j'aime bien quand je suis sur des femmes, c'est parti. Nicolas veut partager son expérience, parce que Nicolas, il a deux ados, je crois, de 17 ans, c'est ça. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, hyper content de vous avoir depuis le temps que je vous écoute. Donc oui, j'ai deux beaux-fils de 17 et 15 ans et qui effectivement, bon, au-delà d'être hyper focus sur les réseaux sociaux, Snapchat, Fortnite et autres, bah c'est vrai qu'ils m'ont déjà dit qu'ils avaient déjà eu des retours de copains de lycée que bah, dès qu'ils approchaient trop une fille, bah est-ce que je vais pas être traité d'harceleur parce qu'on dragouillait? Moi, j'ai grandi dans les années 90. Alors, parfois, effectivement, on peut être un peu lourd et je comprends que ça peut saouler la gente féminine. Mais aujourd'hui, voilà, il y a tellement la trouille et les communications qu'on voit sur Snapchat et autres, de j'approche un peu une fille, je suis un peu un contact sympa, bah tout de suite, on peut avoir la suspicion d'être traité de harceleur, alors que...
Non, il faut juste respecter le
Ce que disait Charles.
Mais est-ce que vous sentez qu'ils sont moins intéressés par le sexe que vous, à leur époque, ou pas?
Ah bah 100%.
À cause de quoi? Hormis le côté drague, alors, parce que entre 17 et 15 ans, la libido, c'est un peu en fusion, quoi. C'est un peu l'Etna dans le bide.
Vous-même qui avez beaucoup pécho,
alors,
Nicolas.
Pas dans le bide, mais oui, c'était un peu l'Etna, je confirme. Oui. Mais non, c'était...
On vous appelait le volcan du camping, non?
Non, simplement, c'est que nous, à l'époque, enfin, quand j'avais 14 jusqu'à 18 ans, on était tout le temps sortis entre potes, on jouait dehors, on était à la campagne, enfin voilà, on était beaucoup
vous
plus
insouciants,
mais on était en groupe, en communauté. Aujourd'hui, eux, ils font des visios sur leur téléphone. Et moi, je leur dis, mais pourquoi vous ne réunissez pas entre potes ah bah non, moi je suis bien chez moi et lui il est bien chez lui. Ah bah super quoi.
Non mais regarde, il y a plein de blagues maintenant où on dit, à l'époque on disait tu rentres. Maintenant les parents ils disent tu sors.
Alors Nicolas, reste avec nous parce qu'on a Wesley qui va intervenir, il est dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Wesley.
Eh bien, bonjour à tous.
Wesley. Salut conseiller bancaire Wesley. Alors, les jeunes femmes ou les jeunes moins intéressés par le sexe, comment vous l'expliquez vous, Wesley?
Eh ben déjà, je pense qu'il y a la pornographie. La pornographie
qui est plus accessible.
C'est vrai aussi.
C'est plus accessible. Je suis désolé. Moi, je suis de l'âge de Juliette Briand. J'ai quand même grandi sur les réseaux
Estelle, et Internet. Ouais.
Et aujourd'hui, franchement, je vous le dis, mais un gamin, il a 12 ans, il a déjà vu du porno en direct. En fait, il y a toujours du porno H24, on en voit partout, que ce soit les séries Netflix, ou absolument qu'il y ait une scène ou un moment, il faut que ça s'embrasse et que ça se touche et machin. Donc en fait, les jeunes en voient tout le temps. Donc je pense que ça a aussi créé à côté des années, je sais plus le pourcentage que vous avez sorti tout à l'heure, qu'il y a quelques temps, les anciens, ils avaient 15-25 ans, je crois, vous aviez dit.
Oui, c'est 15-25 ans, ouais. Attendez, je reprends mes chiffres. Donc on est passé de 38%. Aujourd'hui, c'est 38% des 15-24 ans qui estiment que le sexe est important dans leur vie. C'était 62% en 90. Donc là, il y a une minorité de jeunes qui estiment que c'est encore important.
Mais qu'est-ce qui a remplacé le sexe dans la vie, alors? Mais justement, c'est ça.
Le porno virtuel et le smartphone et les séries Netflix et la peur peut-être aujourd'hui
la masturbation.
D'aborder d'aborder une fille.
Je crois pas trop. Non, pour moi, c'est vraiment le parce que
les raviolis,
que ce soit la pression, voilà, de pas être aussi performant qu'un acteur de porno, etc. Le côté mascu, pas mascu et tout. Mais je veux dire, quand t'as quelqu'un en face de toi et que t'es amoureux, je veux dire, il y a pas un centimètre carré de ton corps qui a pas envie de.
Ou sans l'être d'ailleurs, tu peux avoir une différence sans être amoureux.
Tout ton corps.
Mais Wesley, vous avez 26 ans, donc vous êtes tout jeune, donc.
J'ai plus maintenant. C'était la dernière fois que j'avais appelé RMC, 26 ans. Aujourd'hui, je suis à.
Il appelle tous les 26 ans.
Vous êtes à combien maintenant?
152.
J'arrive à 30 ans, là.
Mais vous l'avez ressenti autour de vous quand vous aviez 26 ans, que on s'éloignait du sexe quand même ou pas?
Eh ben, un petit peu.
Est-ce que c'était vous qui vous éloignez des femmes ou les femmes qui s'éloignaient de vous? Parce que peut-être que c'était pas générationnel.
En fait, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, j'ai toujours été très, très dragueur. Avec pas trop, sans être lourd, bien sûr.
Est-ce qu'on peut être encore très dragueur?
Vous arriviez à conclure ou pas?
Oui, totalement.
Il va dire le contraire.
Il est honnête. De notre auditeur.
Ils sont honnêtes au 32-16.
Merci à Nicolas et merci à Wesley d'avoir été dans les JG. Merci messieurs, bonne journée. À bientôt dans les grandes gueules. Merci d'avoir participé à notre discussion. Est-ce que ça vous inquiète ou pas?
100%.
Justement, qu'on se détourne du sexe. Oui à 64%, non 35% quand même. Allez, dans un instant, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, pour évoquer la réunion canicule à Matignon.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.